Bonjour chers amis, Michel Soyer, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Florilège des Arts et de la Culture, dirigé par Nicolas Stocker, qui ne sera pas avec nous ce matin. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un ami qui s'appelle Florimond Olive et qui vient de commettre un ouvrage, un livre qui s'appelle Tempus Fugit, fugit, comment dit-on, fugit. C'est du latin. Et d'abord, alors, quand j'ai annoncé la venue de Florimond, on m'a dit, mais quel prénom incroyable! Il y en a très peu, j'ai regardé sur Internet. Alors, moi qui me prénomme Michel, qui est quand même extrêmement ordinaire, je suis très jaloux, parce qu'entre les Enguerrand, les Gonzague, les Florimond, bah là, ça vient d'où, Florimond?
Ouf, c'est du vieux français. Mais mes parents étaient déjà fans de cinéma et Florimond, c'est le fils de Angélique, marquise des Anges.
Mais nous avons reçu ici Anne Golubinov, qui est la fille de Anne Golon.
C'est bien pour ça que je te dis ça. Je suis un peu tes invités, mon cher Michel.
Ah, bah c'est très gentil de me faire la remarque. Ah, donc tu as un prénom qui est issu du cinéma, Robert Hossein, Michel Mercier.
Non, c'est juste que ça leur a rappelé voilà ça quand je suis né dans cette époque-là en 81 et voilà et donc du coup ils ont fait le lien avec un vieux prénom qui était voilà qui a commencé 15e siècle.
Donc. Mais tu es aussi beau que Geoffrey de Peyrac.
Je sais pas comment.
Mais tu n'as pas de balafre. Pas encore, ça peut venir. Alors, revenons un petit peu à notre sujet, parce que c'est un thriller, donc c'est un roman policier, c'est un polar, qui est très gros, il fait 400 pages. Moi, j'ai découvert, alors, bon, tu as fait une signature la semaine dernière à l'Assemblée nationale, et c'est un sujet qui, en fait, c'est un thriller politique. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, déjà, je voudrais qu'on parle, avant d'arriver sur le fond, sur l'écriture elle-même, car on en parlait tout à l'heure, l'écriture est... C'est un scénario de film que tu as écrit, parce que c'est très coupé, ça se lit facilement, ce sont des petits paragraphes, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les ouvrages qu'on reçoit sont un peu écrits de cette façon-là, c'est-à-dire facile à lire, on peut passer d'une page à l'autre sans perdre le fil, hein, ça n'est pas l'écriture de Proust, et on a l'impression que il y a une facilité, on peut rentrer et sortir du bouquin, donc c'est un peu à la Beck BD, alors comment tu as voulu écrire ça?
Il faut remonter à l'origine, la toute première fois que j'ai l'idée de ce livre. On est début des années 2000, et j'ai pas du tout l'idée d'un livre, j'ai plutôt l'idée d'une série télé. Alors c'est l'époque de la mode de 24 heures chrono, et donc j'imagine ça, ce côté en temps réel. Et voilà, l'idée tourne, on envisage d'en faire une série télé à l'époque avec des amis, et finalement, ils veulent partir dans une autre direction, donc je repars avec mon idée, et elle reste dans ma tête jusqu'en 2020. Oula, petit burn, et je mettrai une pièce tout à l'heure. oui, parce qu'il y a un cochon, je ne sais pas si tout le monde suit, oui, quand on met un mot en anglais, il faut mettre une pièce, donc je la mettrai tout à l'heure. Dépression, et je me dis, il faut que je me vide la tête. Il y a trop de choses dedans, donc je vais mettre ça sur du papier pour en garder une trace. Et en fait, l'exercice me plaît, donc j'écris. Ça finit comme ça, un scénario, enfin ça ressemble à un scénario, c'est très visuel. Et puis ça reste au final lettre morte jusqu'à ce que Joseph Vébré, qui est le directeur de collection, se retrouve avec entre les mains fin 2025 et dise « on va l'éditer ». Voilà.
Bingo.
Bingo. Bingo. Et voilà. Et donc ça se passe super bien.
Alors, édition Héraclès. Héraclès est aussi un dieu. C'est le dieu, c'est le grand, grand dieu, le fils de Zeus. Donc, c'est quand même né sous une bonne étoile. Alors, il faut rentrer dans le vif du sujet parce qu'on parle de la politique. Et, la question qui se pose, en fait, c'est que quel est le lien entre la politique et un polar? Et on a l'impression que le pouvoir, finalement, comme disait Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Bon, est-ce que justement ce côté mystère, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des histoires, toujours un peu mystérieuses, des assassinats, des problèmes, ça a toujours existé, ça continue, hein, parce que quand on regarde la presse, finalement on se dit que la vie réelle est beaucoup plus, c'est plus un scénario de cinéma que ce qu'on invente, que la fiction, hein. Bon là, le livre est une fiction, mais pas tant que ça, parce que ça parle de sujets qu'on voit dans les journaux tous les jours, hein, pas si ouais, Sarkozy, etc.
Alors, non, il n'y a pas de nom directement. En fait, je vais peut-être en décevoir certains, et pourtant, je les remercie dans les remerciements, c'est-à-dire les complotistes. La vie n'est pas un complot. La vie politique n'est pas un complot. Par contre, ce qui peut donner cette illusion, c'est que l'apparition des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, a amené à traiter l'information en masse, en boucle, sans aller au fond, et surtout de réagir immédiatement. Il faut être les premiers à sortir l'information, mais avant on faisait un travail, un vrai travail d'enquête long, avant de sortir l'information, et qu'aujourd'hui on ne la sort plus. Donc, effectivement, les gens se disent « Oh là là, on nous cache les informations », mais juste parce que on n'a pas le temps de la traiter, on ne la donne pas en entier, on la donne de façon parcellaire, comme elle vient. Bon... Voilà, c'est une réalité. Il y a des choses qui se passent dans la politique, mais comme dans tous les milieux, et il faudrait bien plus qu'une émission pour expliquer chaque point. Là, le trait est très exagéré dans le livre, volontairement, mais pour donner un rythme, pour donner un suspense, pour... si effectivement on remonte dans les siècles, oui, il y a tout un tas de choses qui ont dû exister ou qui se sont passées, il y a des choses qui peuvent se passer aujourd'hui ou autre, mais... Ça reste une fiction. Ça reste une fiction sur ce qui s'est passé. Et puis, tu l'as lu par toi-même, ce qui se passe en 26 heures, puisque ça dure 26 heures, ça serait compliqué à le faire tenir. Ce qui est vrai, c'est que les procédures dont on parle, les lieux ou autres, j'ai essayé de rentrer dans le détail et de comment ça se passe et de les décrire au mieux pour que le lecteur soit absorbé. Dans cet univers, parce que c'est un univers.
Ah oui, on a l'impression qu'on met le pied dans un truc et que on ne sait pas tout, on ne sait pas le début, la fin. Moi, j'ai coutume de dire que derrière chaque grand homme, dans quelques milieux que ce soit, il y a toujours une partie noire. Une partie sombre. Nos grands rois avaient, par exemple, je sais n'importe quoi, Louis XIV ou Napoléon, ont fait des choses formidables et puis des choses épouvantables. Bon, donc, est-ce que le pouvoir politique, nécessairement entraîne ce côté Machiavel? D'ailleurs, tu cites Machiavel dans ton communiqué de presse que j'ai quand même lu avant de venir
ici.
Mais
pas que dans le communiqué de presse. Si tu lis, je mets une citation en tout début. Du livre, une citation qui est extraite du Prince de Machiavel. Alors, le Prince de Machiavel, beaucoup en ont entendu parler, peu sont ceux qui l'ont réellement lu. Si vous écoutez les politiques, c'est pour tous, c'est leur livre de chevet. Je ne sais pas s'il y en a la moitié qui a lu le Prince. Mmh. En tout état de cause, Machiavel avait écrit un livre qu'il avait offert. Et ce livre était pour dire « Attention, voilà comment ça se passe et voilà comment vous devez gouverner, voici les conséquences de chacun des actes qui peut y avoir. » Et donc, tout le monde s'est dit « Oh là là, c'est machiavélique, la façon dont il traite les choses. » Non, c'est juste de réfléchir, de se poser et de mesurer les conséquences des actes. Alors, je vais rassurer tout le monde, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, en 2026... dans la politique, il y ait beaucoup de politiques qui soient machiavéliques au sens de prévoir les conséquences de leurs actes, à long terme, en tout cas. Donc voilà, il y a un côté noir, bien sûr, mais il y a un côté noir en chacun d'entre nous.
Mais, ah bon ?
Évidemment, évidemment. Tu peux pas imaginer une seconde que la vie est belle, la vie est rose et tout se passe bien. Écoute, Coluche disait il y a des années... il disait, si on les écoute, les riches c'est les gentils, les riches c'est les méchants, les pauvres c'est les gentils, et puis tout le monde veut devenir méchant. Voilà, on a ce côté, on veut, nous en premier, les autres derrière, on veut bien qu'ils aient, mais on veut On veut que ça soit nous en premier. C'est valable en politique, mais c'est valable dans tout. Je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont un vrai côté humaniste. Mais il y a forcément un moment où tu te dis « Oh, je fais tout pour les autres, il y a peut-être un moment où il faut aussi que je m'occupe un peu de moi. » Ou voilà.
Mais je pose la question moins pour l'intérêt personnel des uns et des autres que pour la gestion de l'État et peut-être ce qu'on appelle la géopolitique, qu'elle soit profonde ou pas, puisque c'est une chaîne de télé qui s'appelle comme ça. On est obligé certainement de masquer les choses, de travailler, faire un truc à trois bandes, là, un billard à trois bandes, de regarder comme aux échecs le coup d'après, d'après. Et donc, parfois on ne sait pas tout soi-même, mais en même temps, on ne dit pas tout aux gens. Donc, il y a ce côté mystérieux qui fait peut-être qu'aujourd'hui, j'irais deux choses. D'abord, on se défie du monde politique de plus en plus parce qu'on se dit, voilà, ils nous cachent tout, on ne sait pas. Il y a des complotistes, des choses qui se passent derrière notre dos. Et puis, en même temps, avec les réseaux qu'on peut critiquer, hein, peut-être les choses étaient plus discrètes avant. Ça ne se savait pas. Aujourd'hui, apparemment, on sait tout sur tout le monde. C'est ce qu'on croit. Je voudrais rappeler aussi que informer, c'est donner une forme, mais laquelle? Car sur un fait précis, un objet précis, il y a plusieurs points de vue, puisqu'on peut regarder par le haut, par le bas, par derrière, par devant, etc. Et donc, on a du mal à décoder tout ça. Voilà, je voudrais rappeler que quand on tape ton nom sur Internet, on trouve ton histoire avec MAM. Mmh. Bon, Michel Alliot-Marie, dont tu as été très proche, tu es le neveu, je voudrais rappeler.
Toujours très proche, hein, voilà. Et on trouve beaucoup de bêtises quand même. Hein.
Oui, mais c'est vrai qu'on se dit...
Y compris venant des journaux.
on se dit finalement, tout le monde passe à la casserole. Dès qu'on est un peu dans la chose publique, qu'on est là où on se dit on va défendre notre pays, apporter sa pierre, etc., etc., on était certainement obligé de ne pas tout expliquer. Et puis, y a-t-il des petits arrangements entre amis, pas pour la mauvaise cause, mais parce que c'est peut-être le mode de fonctionnement?
Alors...
Je suis désolé,
Non, mais attends, ça me touche personnellement parce que c'est un passage qui a été très douloureux. Je préfère en parler avec toi, mais en réalité, même les médias mentent. Il faut le savoir. Il y en a qui le font consciemment, en sachant que ce qu'ils vous racontent, c'est bidon. Souvent, c'est ceux qui lancent les fameuses informations. Il y en a d'autres qui reprennent. Il faut du sang et des larmes. Et voilà, c'est tout ce qui compte pour les médias, du sang et des larmes. Peu importe que la vérité soit exacte ou pas, peu importe que eux-mêmes participent à une manipulation, c'est d'ailleurs ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, mais en réalité, l'information n'est jamais simple. Et on va te donner une info, on va te dire « attention, hein !» Mais en fait, on te dit pas que derrière, la personne qui est accusée n'a pas le droit de répondre parce que sinon elle va se mettre en infraction et qu'elle est en procédure et qu'elle n'a pas le droit d'être évoquée là-dedans et de voilà. Et si la personne remet une pièce dans la machine en se défendant, et ben alors là, ça ne s'arrête jamais. C'est, je te le dis, c'est vrai que c'est en rapport complet avec Tempus Fugit dans le sens où on ne donne pas une information complète, parce que si tu donnes l'information complète à tout le monde, si elle est accessible, tu n'as plus d'éléments de pression. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Y a Trump, d'un côté, qui dit « attention, on va vous détruire, on va vous raser, on va utiliser des technologies inimaginables. » Les Iraniens disent la même chose, c'est de la menace. Qu'est-ce qu'on en sait si des armes existent beaucoup plus fortes? Est-ce que tu crois que si on rend public une arme exceptionnelle, un laser qui va se pointer et détruire les infrastructures électromagnétiques, par exemple, et que l'élément est connu par le monde entier, est-ce que tu crois vraiment que ça va avoir la même influence que d'en faire la démonstration? Est-ce que tu crois que ça va avoir la même influence que la peur? Parce que la peur, tu ne connais pas les conséquences. Depuis la bombe atomique, on a tendance à utiliser la peur. Et la peur d'armes encore plus puissantes que pourrait être la bombe atomique ou autre, ça existe dans la tête de tout le monde. Mmh. Mais on ne peut pas, parce que l'information n'est pas traitée. Depuis que l'information, c'est Twitter, est-ce qu'on fait un communiqué de presse en 140 caractères? Non. Est-ce que une pensée, un programme, une durée peut être écrite en 140 caractères ou 250, peu importe. Aujourd'hui, je pourrais même pas te dire combien il y en a. En réalité, on a voulu l'immédiateté pour donner à tout le monde le droit à la parole et à s'exprimer, et tu as tout et n'importe quoi. Tu as des gens qui ont des propos très intéressants, des propos qui sont, sur l'instant, déjà pensés par des gens. Et puis, tu en as d'autres, c'est complètement aberrant. Quand on te dit « Oui, oui, la Terre est plate », j'ai vu une vidéo de Jean-Michel du 57 qui a montré que la Terre était plate. Bah non, enfin, c'est, voilà, ça fonctionne pas, c'est pas crédible. Voilà. Et moi, c'est ça. Ce que j'ai voulu mettre dans le livre, c'est aussi ce côté crédible. Normalement, quand on lit, on est immergé, en tout cas c'est le retour qu'on fait, on est immergé dedans, on voit ce qui se passe, on a envie de savoir la suite. Pour garder le côté « on cache les éléments », j'ai ramené tout ça avec des rapports que je fais apparaître en fin de chapitre pour expliquer des détails, pour dénoncer une manipulation. Voilà, donc j'ai conscience du côté « on ne vous dit pas tout ». Oui, parce qu'on n'a pas toutes les informations et que pour avoir toutes les informations, il faudrait être dedans H24 pendant des mois et que quand tu fais un livre ou quand tu regardes la télé, que tu écoutes le programme présidentiel ou les élections ou la guerre, bah, il faut juste être conscient qu'on ne sait pas tout. On n'a pas toutes les informations parce qu'on n'a pas le temps de vous les donner et parce qu'on donne tellement d'informations. Aujourd'hui, tu as un nombre d'informations, c'est pas qu'il y a plus de faits. C'est juste qu'on les met plus en valeur, parce qu'une chaîne d'infos en continu, elle a besoin en permanence de sortir des nouvelles infos. Sinon, c'est naze, elle n'a pas d'audience.
Donc, trop d'infos tue l'info. Mais effectivement, aujourd'hui, le citoyen qui a trop d'infos, on lui demande de voter. Mais quels sont ses critères? Parce qu'aujourd'hui, les gens votent de moins en moins. Bon, c'est une catastrophe pour la démocratie, en tous les cas, parce qu'on n'y comprend plus rien. Et on se dit, à quoi ça sert? Je suis perdu, je suis complètement noyé. Préalablement, les chefs d'État, quels qu'ils soient, faisaient des discours en place publique, on savait parler, il y avait une gestuelle, il y avait une symbolique qui imposait un respect et une adhésion. Aujourd'hui, on est passé, comme dans le cinéma de Godard, on est très près des gens, c'est de l'intimité. Parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire en quelques mots en Twitter, donner une idée ou deux, et on peut pas la démontrer, on peut pas l'argumenter. Donc ce sont un peu des slogans publicitaires, quelque part, et tout ça reste très superficiel. Alors, on a l'impression d'être manipulé, on nous fait avancer sur des idées comme ça, qui sont toutes mâchées, toutes faites, donc d'où le côté Machiavel, et est-ce qu'on n'a pas perdu l'idée que les gens peuvent réfléchir par eux-mêmes, aller chercher plutôt l'information, on a perdu le café du commerce, c'est devenu les algorithmes, et les algorithmes, comme chacun sait, on vous sert ce qu'on a déjà mangé, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas de nouveauté. Moi, ce qui me plaît dans un journal, c'est le papier, je dirais, ou dans un livre, l'odeur de l'encre et le fait que je peux aller chercher des infos qu'on m'a pas données parce que je vais les fouiner et que je n'ai pas une attachée de presse qui va faire ma revue de presse en me disant « Monsieur Soyer, je vous découpe ce que vous avez, quel est votre intérêt aujourd'hui ?» Non, justement, l'intérêt, c'est de trouver des choses que je ne connaissais pas avant. Hein. Je pense que quand on arrête d'apprendre, on devient un vieux con. Voilà, il faut apprendre tous les jours. Hein. Et apprendre, c'est ouvrir ses oreilles et ses yeux et aller voir des choses qu'on découvre au détour d'un chemin. Et donc avoir le temps de lire, d'écouter, de réfléchir, de dialoguer. Et aujourd'hui, quand c'est l'immédiateté sur tous les réseaux et même dans les télés, finalement, on ne nous laisse plus le temps de penser. Et ma question, c'est est-ce que tout ça, c'est pas un grand plan pour éviter aux gens de se poser des vraies questions et finalement de remettre en cause l'ordre établi?
Non, je crois pas. Je crois que c'est juste de faire un peu plus d'argent pour les chaînes d'info, parce qu'ils ont trouvé un modèle qui fonctionne. On noie le spectateur dans de l'info et on lui en donne toujours plus, parce qu'il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, la curiosité. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais. Oui, moi, dans le livre, j'ai essayé un peu partout de glisser des indices. Donc, le grand jeu, c'est d'arriver à trouver les indices qui vont te révéler la toute fin, ou en tout cas vont t'aiguiller pour la toute fin. J'ai essayé de l'ancrer dans le réel, dans le concret, avec avec des lieux précis. J'ai une dame qui m'a contacté qui me dit mais vous aviez raison hein, je l'ai regardé sur Google Earth et puis quand je suis venu à Paris j'ai été voir, vous avez raison, c'est comme ça, il n'y a pas d'entrée là, il n'y a pas de machin. Et donc bon, c'est amusant parce que les gens, il y a des gens qui se sont pris vraiment au jeu. Après, sur le côté, le grand plan, l'information noyée, on ne te donne pas tout. Ben non, on ne te donne pas tout parce que tu n'as pas le temps de l'encaisser. Sur le fait de ne pas aller voter, je pense qu'en fait, les gens ne vont plus voter pour deux raisons. La première, ils ne croient plus à ce qu'on leur dit parce que on promet quelque chose, on ne le fait pas, parfois pour des raisons qu'on n'exprime pas. Parfois parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'en réalité, ça n'a pas été pensé à long terme. Les idées politiques, en grande majorité, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais en grande majorité, c'est du marketing. Ce n'est plus de l'idée politique, ce n'est plus de la vision que vous aviez à l'époque, au temps des grands présidents, à savoir De Gaulle, Pompidou, même Giscard, qui a pourtant été très critiqué, Mitterrand, Chirac. Je pense que Sarkozy, quand il prévoit son programme et quand il le travaille, il a une certaine vision, pas forcément complète, parce qu'il fallait réagir. Déjà à l'époque, on commençait dans l'immédiateté, et donc sa vision de la France, c'était une vision à 5 ans, 7 ans. Alors qu'en réalité, la vision, elle est à beaucoup plus long terme. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, ça a été le quinquennat. Parce qu'on a mis le président de la République sur la même durée de mandat que les députés. Résultat, la différence, le côté, le président est au-dessus de tout le monde. Bah, non, parce que il est dépendant des députés, les députés sont dépendants du président, ce qui n'était pas le cas avant. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'imagine dans Tempus Fugit un monde dans lequel on est revenu du quinquennat, on est revenu de la limitation des mandats. Donc il y a ce côté effectivement prévoir, ce côté dire à plus long terme, avoir cette vision constructive du pays à 30, 40, 50 ans. Et comme il n'y a plus ça, bah, les gens ne vont pas voter. Et puis, avec les réseaux sociaux, toutes les théories farfelues qui circulent, les informations pas travaillées ou pas suffisamment, parce que pas prises avec le recul, parce qu'elles doivent être dans l'immédiateté, qu'on ne laisse pas le temps aux gens de répondre, et qu'on leur dit « oui, c'est en direct ce qu'on vous diffuse », alors que ce n'est pas en direct, c'est enregistré dans les conditions du direct, mais recoupé après, par exemple. Bah, tout ça, ça donne une mauvaise image du monde, ça donne une mauvaise image de la politique et des politiques, comme s'ils étaient tous pourris, ce qui n'est pas le cas. Je te dis pas qu'ils ont tous toutes les idées merveilleuses, mais dans la grande majorité, ce sont des gens qui ont une vraie envie de faire avancer et d'être utiles. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on ne vote plus, et puis parce que plus personne ne se sent représenté, parce que tu as eu des réductions de partis. Tu prends à droite, à l'origine, tu avais le RPR, tu avais l'UDF, tu avais Démocratie libérale, et puis hop, on a tout pris, on a mis dans un seul moule, et ben non, tout le monde n'est pas représenté. Avant, tu avais un premier tour, tu choisissais, et au deuxième tour, il y avait les alliances de second tour qui faisaient que un tel ou un tel pouvait être élu. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Mais c'est le problème de la démocratie, parce qu'évidemment, on dit la majorité va diriger. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les minorités qui ont le droit d'exister? Alors après, c'est l'état de droit, c'est des revendications, etc. Mais c'était en fait le fond du sujet ce matin. C'est quand je dis la politique est-elle devenue un métier, ça l'a toujours été un petit peu, mais
c'est
est-ce
pas
qu'on
un
l'a fait
métier.
Par passion ou par business?
Certainement pas par business. Très honnêtement, on le fait... C'est au-delà de la passion. C'était, et ça l'est encore pour certaines personnes, un sacerdoce. Véritablement, parce que quand tu travailles 7 jours sur 7, que tu dors 3 heures par nuit, ben à un moment, c'est lourd. En termes de vie de famille, en termes d'équilibre, en termes de repos, de santé, c'est dur. Et puis je pense à ceux qui passent des années à faire de la politique et d'un coup d'un seul perdent leur mandat et leurs équipes qu'il faut licencier et les gars qui se démènent depuis 20 ans ou 10 ans et qui se retrouvent à la rue de leur boulot, hein, j'entends, du jour au lendemain, c'est difficile pour eux. La politique, c'est un métier dans le sens où on ne s'improvise pas politique. On apprend et ensuite on devient un bon élu. Les Allemands font quelque chose de très bien au Parlement européen. Ils partent du principe que premier mandat, on apprend, on observe. Deuxième mandat, on commence à mettre en œuvre en étant drivé. Troisième mandat, on est grand, indépendant et on fait les choses soi-même. Mais ils n'ont pas la même vision que nous, et ça c'est au niveau du Parlement européen. Nous, aujourd'hui, on a tourné, pour différentes raisons électoralistes, le problème en disant « Eh ben non, on ne doit pas faire plus d'un mandat, deux mandats, il faut faire le révocatoire, il faut ceci, il faut cela. » Non, c'est juste parce que ceux qui vous disent ça, aujourd'hui, ne sont pas au pouvoir, et ils se disent « Ah ben, comme ça, eux, ils se feront dégager, on aura plus de chances d'être élus. » Donc ça, voilà, ça n'existe pas. De la même façon, on nous a expliqué pendant des années que le nucléaire, c'était mal, c'était le grand Satan. Hein, il fallait supprimer, fermer les centrales nucléaires. Et aujourd'hui, on se dit, ah ben mince, je reste poli. En fait, finalement, c'était pas si mal que ça, le nucléaire. En fait, on s'aperçoit que c'est l'énergie la plus propre. Bon, on va laisser tourner nos éoliennes, hein, c'est moche, mais ça donne bonne conscience. On fait de l'énergie propre. Non, c'est pas si propre, parce que quand tu démontes l'éolienne, ça pollue un peu. Et puis, vu la durée de vie d'une éolienne, ça pollue beaucoup. Et ça coûte très cher. Alors que quand on était juste avec le nucléaire, ou et l'hydroélectrique, parce qu'il ne faut pas oublier l'hydroélectrique, ça coûtait moins cher, c'était mieux pour le portefeuille des Français, et on pouvait vivre. Voilà. Mais encore une fois, c'est une question de vision à long terme. Aujourd'hui, nos élus n'ont plus de vision à très long terme. Ils ont une vision électoraliste, ils ont une vision à très court terme. Et moi, c'est des gens que j'aime pas. Ce côté, en tout cas en personnage de livre, une vision à très court terme, c'est pas intéressante. Il vaut mieux pour moi, et c'est ce que j'ai voulu mettre, ramener sur, on met une vision, ils ont une vision à très long terme, ils travaillent le truc, et puis il y a un grain de sable qui vient se mettre dans la machine, et là, il faut réagir tout de suite. Et là, on retrouve le côté gestion de crise et savoir rebondir, quel truc qui me plaît. Et puis aussi un peu cacher qui on est quelque part.
Voilà, c'est ça, parce que on disait à Sciences Po, l'objectif de la politique, c'est de le pouvoir, et l'objectif du pouvoir, c'est de le garder.
Oui, souvent on te dit que la conquête du pouvoir est beaucoup plus satisfaisante que le pouvoir en lui-même.
Il y a eu un film comme ça qui s'appelle La Conquête,
oui.
Et qui
mais oui, non, mais
en scène Sarko.
Tout à fait. Qui racontait de façon un peu romancée la façon dont il est devenu président de la République. Mais ce que je te disais, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Je vais te raconter une petite anecdote, hein, comme on est entre nous. Forcément, j'ai mes livres qui arrivent et je fais les dédicaces. Donc les dédicaces pour la presse et les dédicaces pour les hommes politiques avec qui j'ai pu travailler ou que j'ai côtoyé. Donc, l'éventail est très, 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 très large. Hein. Ça va de même l'extrême gauche à l'extrême droite. Parce que je les connais, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques qu'on ne peut pas se respecter. Donc, je fais des dédicaces. Nicolas Sarkozy a été le plus rapide à me répondre. Il m'a répondu tout de suite, le jour même. Et puis, les autres, ça a été plus long. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et j'ai reçu, pour les courriers que j'ai reçus, parce qu'il y en a qui n'ont même plus aucune éducation, qui ne te répondent même pas, alors qu'ils te voient, ils te claquent la bise, comment vas-tu, etc. Et je connais leurs attachés, etc. Et pourtant, ils ne te répondent pas. Et j'ai reçu des courriers de remerciements. Moi, quand j'étais en poste au Parlement européen et même avant, il y avait une règle, on reçoit un courrier, on reçoit un livre, on fait un remerciement. Bon. Et on fait attention à ce qu'on met dans la lettre. Et là, je ne dirai pas qui, je pense qu'il se reconnaîtra, m'a envoyé un courrier. Et c'est quelqu'un qui a un poste important, hein, politique, et il m'a félicité de lui avoir envoyé le livre, et il m'a remercié d'avoir publié le livre. Ce qui est absolument merveilleux, parce que, enfin, il faut voir la lettre. Il a les deux trucs sont inversés. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnel qui a écrit le courrier, parce que c'est pas lui qui l'a écrit, a pas à moitié relu. Et lui, quand il a signé, parce que c'était pas la machine à signer pour le coup, c'était sa main, n'a même pas relu ce qu'on lui avait écrit. Et c'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe même plus de ce que les autres écrivent pour nous. On pourrait faire écrire n'importe quoi, ça serait n'importe quelle connerie, et pardon, désolé, et ça ne marcherait pas. Mais ben, on ne relit pas. On ne relit pas. Et donc, il n'y a plus cette conscience du travail bien fait. Voilà, c'est tout l'inverse des gens qui sont les personnages de mon livre, où vraiment, ils ont se préoccupé d'avoir le travail bien fait.
Ben c'est bien, donc, c'est bien d'apprendre qu'en fait, certaines personnes... continue à croire et avoir un sacerdoce dans ce métier de la politique. Alors, on a un petit bobino à passer sur Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, et donc... On s'aperçoit effectivement que le monde politique a encore des arcanes qui nous sont un peu cachées. Alors, je voudrais rappeler quand même que tu as été attaché parlementaire.
Attaché parlementaire accrédité, c'est-à-dire que j'ai été attaché parlementaire au Parlement européen.
D'accord, très bien. Tu es passé par l'IHEDN ?
J'ai fait l'IHEDN, oui, effectivement.
Donc, ça veut dire que tu as cette conscience de
collaborateur parlementaire.
Voilà, de la notion du pays, de la défense géopolitique, dont on parle beaucoup, qui est un vrai métier. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'importance des armées qui sont remises, voilà, la démission du CEMA, les nouveaux, etc. Enfin, voilà, tout ça, c'est dans toute la presse. Et on ne comprend pas très bien comment les choses sont gérées au niveau de notre pays. Il y a des stop and go. Et,
écoute, c'est un sujet très particulier. La défense, ça a toujours été considéré parce que c'est des budgets extrêmement importants, parce que on parle de porte-avions, par exemple, à 12 milliards. Donc c'est des choses qui nous engagent sur le long terme, qui veulent aller dans l'axe de notre protection à tous. Et ça a souvent servi en disant « bah c'est pas grave ». On a besoin d'un peu d'argent, on va retirer sur leur budget 100-200 millions, et puis on les remettra, et puis en fait, au final, on ne les remet pas. Ça a toujours existé. Mais on a eu des présidents qui avaient une vision à, en tout cas sur le domaine de la défense, moyen, court ou long terme, et qui avaient conscience des choses. On a été dans des difficultés... Mais la défense nationale, je pense que tout le monde a l'esprit de se dire on doit absolument avoir les éléments pour se défendre. Ou en tout cas, on a eu une période où les gens se disaient on a la possibilité de faire croire qu'on a toujours les moyens de se défendre. Bon. Quand le président annonce, il n'y a pas très longtemps, le nouveau porte-avions...
France libre.
J'ai écouté avec grande attention ces propos et je me suis inquiété des réactions. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'a pas décidé du jour au lendemain du lancement du porte-avions. Jacques Chirac, quand il est président de la République, dit il faut qu'on envisage un deuxième porte-avions pour notamment les rotations. Quand le premier rentre au port, il faut qu'on en ait un deuxième qui puisse être sur place. Donc à l'époque, on envisage même de le faire avec les Anglais, même si leurs avions sont à décollage vertical. Donc, on développe le truc, et même à l'époque, on sait que c'est à peu près 10 milliards, à l'époque. Aujourd'hui, le président annonce un porte-avions à 12 milliards, et qui sera là, 2040. Allez, dans le meilleur des cas, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Hein. On t'annonce un délai, il est toujours rallongé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à un moment, le Charles de Gaulle, on va le retirer. Donc, on va se retrouver embêté et on n'aura plus, plus de porte-avions, alors qu'on a le deuxième espace maritime mondial. Donc, on a vraiment quelque chose à faire avec le porte-avions. Mais il ne coûte pas 12 milliards aujourd'hui. 12 milliards, ce qui est évalué à 12 milliards, c'est le coût sur toutes les années. Donc en réalité, ça ne fait pas très très cher à l'année, rapporté au nombre d'habitants. Alors, je sais bien, on va me dire, oui, mais on perd, on n'a pas d'argent, on n'a plus rien, machin. Là encore, c'est parce que nos politiques pensent à court terme. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, tu as le budget de l'État qui est fait d'une certaine façon, qui est défendu par un certain nombre de députés en disant « Non, non, ne vous inquiétez pas, on aura de l'argent qui rentrera là, on en aura là, on en aura là, et puis donc on va dépenser un peu plus quand même pour le social, pour ça, et puis on va dépenser un peu plus pour ça. » Et au final, on ne part pas en disant « Voilà le budget, voilà le montant qu'on a à dépenser, et voilà comment on va l'équilibrer. » Ce qui devrait être la logique. Toi, tu as ton salaire qui rentre tous les mois, tu dis, bon, bah voilà, j'ai tant d'euros à dépenser, bah je vais faire en sorte de ne pas dépenser plus. Là, le raisonnement, il est inverse. Il est, on va faire, pas avec l'argent qu'on a, avec l'argent qu'on imagine qu'on va avoir. Et puis, bah, c'est pas grave, si on n'a pas assez, on augmentera un peu pour les plus riches, oui, sauf qu'à un moment, les plus riches, on ne les a plus. Donc, si tu veux, tu as tout ce côté pas prévu. Et le problème, c'est que sur le côté militaire, il faut que ça soit prévu. Parce que les développements de logiciels, de matériel, d'équipements, ben ça coûte. Et puis ça se programme sur le long terme, parce qu'il y a de la recherche, etc. Voilà. Donc, c'est pas qu'on nous cache des choses, hein. C'est juste qu'on a des gens qui font un peu comme ils peuvent, et qui n'ont pas d'idée de comment résoudre les problèmes. C'est tout.
Alors comment est-ce qu'on retrouve toute cette thématique dans ton livre? Je rappelle qu'il fait 400 pages, il y a toute une histoire, c'est un scénario de fin film. Hein. Donc déjà, l'histoire que tu nous racontes, comment est-ce que tu en es venu à dire « je vais écrire »
Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, j'avais eu l'idée vaguement autour de jeux intellectuels en se disant « ah ben moi, si je racontais une histoire, j'aimerais raconter telle histoire ». Et comme je l'ai à l'époque de 24 heures chrono, comme je te disais, bah forcément, il y a ce côté temps réel, etc. Puis on commence à développer pour une série télé avec des copains, et ça n'aboutit pas. Et je le garde au fin fond de ma tête. Et puis quand je fais ma dépression, je ne redirai pas en anglais, bah je me mets à écrire juste pour le sortir de la tête. Et voilà, ça, une chose en entraînant une autre. Je n'avais pas forcément autant à mettre. Mais j'ai voulu garder une ligne qui est la crédibilité et que le spectateur du spectacle vivant qui se passe entre ses mains à la fois ait le même rythme que ce qui se passe dans les personnages. Donc tu as des moments de calme, tu as des moments un peu d'excitation et que le lecteur soit immergé dedans. Donc, pour l'immerger, il faut lui dire quelque chose d'intéressant. Et oui, il fait 400 pages, ce qui n'est pas énorme d'ailleurs pour un thriller. Mais quand tu commences à lire ton livre et qu'on te dit bah, c'est du temps réel et que ton personnage bah, il va conduire d'un point A à un point B, tu vas te dire bah, je ne vais pas raconter que pendant 20 minutes, il passe les vitesses, il allume la clim, il met la radio. Non, tout le monde s'en fout. Voilà, ce qu'on veut, c'est justement, et c'est ce qui me plaisait dans l'exercice, c'est de passer sur une autre histoire qui semble n'avoir rien à voir et qui en réalité est totalement liée pendant ce laps de temps. Et puis
qu'est-ce
après,
qu'est-ce
repasser
dans ton livre,
sur
en quelques mots pour nos auditeurs.
Alors en quelques mots, alors je vais pas parler du prologue en lui-même parce que le prologue est juste là pour situer. Mais ce qui se passe, c'est que on est à la veille de la fête nationale française, l'année avant les élections présidentielles, et là, il y a un attentat. Il y a un grand bâtiment public qui est soufflé. pendant cet attentat, il y a un ministre qui disparaît. Et puis, on va enchaîner avec tout un tas d'autres événements un peu extrêmes, troublants. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir, même si on le sent assez rapidement, que tout ça est lié au décès de l'ancien directeur du FMI, qui allait être candidat à la présidentielle, mais son décès a eu lieu il y a 15 ans. Et voilà, et en fait, ça raconte une journée dans une famille qui est au cœur du pouvoir politique, et avec tous les éléments, les luttes de pouvoir, les bisbilles qu'il peut y avoir, les problèmes relationnels entre le ministère de l'Intérieur, la DGSI, le secrétariat général de l'Élysée, et l'Élysée qui semble un peu absente, en tout cas qui semble, et puis après les impacts sur les grands groupes de médias, et au milieu de tout ça, il y a une chute boursière, et puis on s'aperçoit que il y a des manipulations boursières qui ont lieu à l'étranger, tout ça dans un but qu'on ne connaît pas et qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure. Et puis au milieu de tout ça, bah, il y a l'enquête qui suit, et on découvre au fur et à mesure de la journée un certain nombre d'éléments sur tous les personnages, parce que personne n'est épargné, parce que comme je te le disais tout à l'heure, tout le monde a son côté sombre, et tout le monde a ses propres motivations pour agir, ses propres méthodes. Voilà.
Alors, il était un peu écrit, comme on disait tout à l'heure, réseau social, c'est-à-dire c'est cut-cut.
Alors, réseau social, t'es un peu dur. T'es un peu dur parce que je fais pas des phrases ou des paragraphes de 250 caractères. Mais oui, parce que c'est ce que je te disais, comme j'ai ce problème de timing que je veux suivre, bah, parfois, mon type, il va conduire 20 minutes. Puis parfois, il y en a un, c'est humain, il va aller dormir, il va aller manger, il va aller aux toilettes. Enfin, il faut, voilà, ça prend du temps. Mais comme je veux garder ce côté temps réel, tout au long, eh ben, il faut bien que je passe à autre chose. Donc parfois, t'as des scénettes qui durent 3-4 minutes dedans, parfois un peu plus. Et ce qui était important pour moi, c'est que tu retrouves les personnages tout au long de la journée. Parce que tous les personnages ont leur importance. Alors, il y en a beaucoup. C'est le plus gros reproche qu'on m'a fait en me disant, il y a beaucoup de personnages.
Et dans Balzac aussi.
mais c'est vrai que les 40 premières pages, pour certains, c'est un peu, c'est pas possible. Mais en réalité, si tu te projettes sur ta propre vie, quand tu vas bosser, combien de personnes tu vas avoir croisées entre le moment où tu pars de chez toi et le moment où tu arrives à ton bureau? Énormément. Et chacun a sa propre vie. Et comme tu les as croisés, ça veut dire que chacun de leurs actes a eu un impact sur ta propre vie, puisque tu les croises à ce moment-là. Si telle personne avait fait autre chose, tu ne l'aurais pas croisé en sortant du métro et en allant directement à ton bureau ou en allant acheter une baguette, etc. Donc, vraiment, l'idée est d'avoir tous ces personnages dans un univers. L'idée est aussi de... Alors, pas perdre, mais je mets des petits pièges pour le lecteur. Je lui mets des indices, mais je lui mets des pièges. Parfois, il s'attache à un personnage en disant « Ah, il est très développé ». Et en fait, le personnage, deux pages après, il est plus là. Donc, voilà, c'est des petits jeux, mais c'est la vie de ce qui se passe dedans. C'est des personnages, il y a de la violence, il y a de la stratégie. Il y a de la communication, il y a des médias, il y a des luttes de pouvoir. Voilà. La vraie vie un peu exagérée, pour que ça soit très intéressant et prenant et avec un suspense, mais la vie.
Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la couverture, sous le nom, c'est marqué 1 au nom du père, car il y a un 2 et peut-être un 3. Donc c'est une série, alors, donc tu es parti pour faire...
On va pas rentrer sur tous les détails, mais c'est vrai que dès le départ, je l'avais pensé comme n'étant pas une œuvre isolée. Donc oui, le 2 est en relecture finale.
À l'apparition quand ?
Pour l'instant, il est prévu pour fin octobre.
D'accord.
Ça pourrait varier un petit peu, peut-être, on va dire, entre début octobre et mi-novembre. Hein, mais c'est aussi en timing par rapport à l'actualité.
C'est la bonne époque pour les prix littéraires.
C'est la bonne époque pour
mais
les prix littéraires.
Chez Grasset ou pas chez Grasset
littéraire, oui. Je passe le bonjour à Olivier Nora, que je connais depuis très longtemps, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps. En fait, quand le livre est tombé entre les mains de mon directeur de collection, ça a été très vite. C'était à la Toussaint 2025 et le livre est sorti le 29 janvier. Donc ça a été très vite.
Ah oui.
On n'a pas vraiment fait une promo, mais on a eu de très très bons retours. Donc la maison d'édition m'a dit allez, on part sur le 2. Effectivement, j'ai écrit le 2 très rapidement parce que j'avais déjà l'idée en tête. Et donc, il va sortir effectivement là, puisqu'il est en cours de relecture. Et j'ai déjà attaqué le 3, oui, parce que il faut que je m'occupe intellectuellement pour ne plus penser au 2 et éventuellement, là encore, aller reprendre des petits détails dans le 3 pour les glisser dans le 2.
Alors, est-ce qu'on retrouve les personnages? C'est une suite ou c'est autre histoire?
Oui, c'est une autre histoire. Enfin, le 2 est la suite immédiate du 1, puisque ça commence à la minute, exactement à la minute où le tome 1 s'arrête. Pourtant, j'ai fait en sorte de l'écrire comme si les deux pouvaient être lus sans... Enfin, le 2 puisse être lu sans avoir lu le 1, le 1 peut être lu sans avoir lu le 2. C'est mieux d'avoir lu les deux et de les avoir lus dans l'ordre. Oui. Là, je suis d'accord. Voilà, les deux se suivent. Voilà, mais un peu comme une série télé. Et puis, voilà.
Alors, justement, tome 1, tome 2, avant, on faisait des tomes dans les bouquins. Alors, parlons audiovisuel, hein, puisqu'on est dans une radio. Donc, il y a un objectif quand même, série télé.
C'est plus qu'un objectif, puisque, en fait, il y a eu le coup de foudre d'un producteur. Et je le salue, Louis, je t'embrasse. Quand le livre lui est tombé entre les mains, vraiment, immédiatement, il a accroché, il m'a appelé, il était en train de le lire. Et il m'appelait, il me donnait toutes ses théories au fur et à mesure. Donc ma femme a fini par péter un câble, parce que elle disait, mais c'est pas possible, il peut pas lire le livre sans t'appeler 4 fois par jour. Et on restait des heures au téléphone. Il l'a eu terminé, il m'a rappelé, il m'a dit « Je te confirme ce que je t'ai dit quand j'avais lu que 50 pages, je veux les droits. Mmh. Donne-moi les coordonnées de la personne qui gère ça, la maison d'édition, je veux les droits. » Donc il a acheté les droits et tout est en train de se monter en production.
Série télé,
mais... Comme je l'ai eu hier soir et qu'on a passé un petit moment, comme à chaque fois, puisqu'on fait un peu le point sur où on en est sur la production, il m'a dit, t'en dis pas trop, t'as juste le droit de dire que ça sera une série télé et qu'elle va aller sur les plateformes.
Les plateformes, donc voilà. Voilà, c'est le choix des plateformes et non oui. pas... donc il y aura peut-être une chaîne YouTube.
Il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de plateformes, mais plateformes de série télé... On a 4-5, hein, pas plus. Hein. Aujourd'hui, t'as Netflix, t'as Amazon, t'as Apple, t'as Canal+, les grosses plateformes, hein, j'entends. Et tu sais un peu les formats de ce qu'elles diffusent. Donc voilà, tu vois bien, t'as 26 heures, tu peux imaginer beaucoup de choses, mais ça te ramène et ça te guide vers l'idée, en tout cas, d'une série télé et de voir comment on va diffuser ça.
Alors, on est à quelques encablures du Festival de Cannes, et aujourd'hui, on parle beaucoup, justement, de ces nouveaux formats, du fait qu'on, voilà, il y a peut-être des baisses de fréquentation des salles, mais en même temps, la télé à la maison, sur différents écrans, ça fonctionne très bien.
Oui, ça fonctionne très très bien. L'économie est différente. L'économie est différente parce qu'elle est mondialisée, tu payes ton abonnement Netflix ou Amazon ou autre, hein, je dis Netflix par facilité. Et quand tu regardes, tu sais que tu as payé ton abonnement pour pouvoir le regarder avec toute ta famille. Alors que tu décides d'aller au cinéma, eh ben, c'est 12, 13, 14 euros la place. Et si tu veux y aller avec ta femme, avec tes enfants, bah, tu multiplies le prix. Donc du coup, je pense qu'il y a encore des possibilités d'aller au cinéma. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un accès à la culture fantastique. Mais tu le gardes pour des grands événements. Et aujourd'hui, bah,
des grands films.
Des grands événements, je m'explique. Mmh. Aujourd'hui, on va te parler de des Marvel, par exemple, avec qui ne marchait plus trop, il y avait une baisse, et pourtant, on t'annonce le Spider-Man, on t'annonce Avengers Doomsday, etc. Et où les gens se disent, ça va être du très grand spectacle, ça va être des films de 2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3 heures. Eh ben, je veux bien aller payer ma place 14 euros, je vais peut-être y aller que une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, mais ça vaut le coup, c'est pour un grand spectacle. Parce que honnêtement, je peux comprendre quand tu vas voir un film, que tu t'attends à avoir un truc super, un spectacle distrayant, parce que tu as lu dans Télérama que c'était super génial, machin. J'ai rien contre Télérama, mais c'est très intellectuel. C'est pas le côté divertissant du film, qui a des choses très intéressantes. Mais tu te retrouves face à un écran de cinéma en pensant aller voir quelque chose, et tu te retrouves avec un truc qui est peut-être très intéressant, très intellectuel, mais c'est pas ce que t'es venu voir. Et tu te dis, bah, j'ai payé, on est quatre, j'ai payé 4 fois 14 euros, soit 56 euros. Pour voir ça, voir un film pendant lequel ma femme dormait au bout de 10 minutes, mes enfants au bout de 5 minutes me tiraient sur le bras en disant « Papa, on s'en va, papa, on s'en va ». C'est du vécu. Alors oui, peut-être que le film, je le regarderai chez moi, à la télé, mais je vais pas le voir au cinéma. Voilà, donc c'est...
Alors c'est... Oui, c'est plutôt le grand spectacle. Là. Dans quelques jours, il y a le biopic sur Michael Jackson au Grand Rex.
Fait, ouais.
Alors le Grand Rex, bon, voilà, c'est le Grand Rex, hein, bon, c'est exceptionnel. Ouais. Et Michael Jackson, je ne sais pas, mais pour les fans, effectivement, ça va être certainement une grande histoire. Et donc effectivement, on garde les salles pour les grands, grands spectacles, parce que le petit écran reste petit. Donc,
il est de plus en plus grand. Hein, le petit écran est de plus en plus grand.
En Chine, hein. On fait des films qu'on regarde sur son téléphone quand on fait la queue de 10 minutes.
Oui, voire même 2 minutes. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je vois pas comment tu développes un truc développé avec du sentiment, avec de l'amour, enfin, ouais. Explicite en 2 minutes ou 10 minutes. Je vois pas, honnêtement, je vois pas. C'est dû à la chaîne. Non, ce que tu disais sur Michael Jackson, et comme d'ailleurs sur les différents biopics, c'est comme le retour de Céline Dion. On a une certaine nostalgie, une nostalgie de ce qui se faisait avant, une nostalgie d'une époque où on pouvait tout dire. Je pense qu'il y a ça. Alors, il y a eu plein de bonnes choses, où on a poussé vers l'égalité homme-femme, même si ça n'est pas réellement le cas, et que même dans notre esprit masculin, on a tendance, même si on le veut pas, mais... à pas traiter la femme totalement à l'égal de l'homme. Mais toute cette époque des films d'Audiard où on se moquait de dire un gros mot ou d'avoir des blagues graveleuses dans un film, tout ça, on le retrouve pas. Et aujourd'hui, on a cette nostalgie de l'époque Michael Jackson, de l'époque où Céline Dion faisait encore beaucoup de concerts par an. Voilà, ça y a... Il y a eu toutes ces choses-là. Il y a eu ce retour en arrière et l'évolution du coût de la vie, parce qu'on parlait effectivement dépenser pour aller au cinéma ou dépenser pour avoir ton abonnement plateforme. Mais quand tu as payé ton téléphone, ton abonnement téléphone, ta télé, ton abonnement box pour voir la télé, ton internet pour pouvoir surfer et aller voir des informations plus ou moins intéressantes... Bah ouais, t'as plus rien qui te vient, et comme t'as une pression fiscale dingue, c'est comme sur l'essence, au lieu de se dire on n'a plus d'argent pour faire de l'aide, on devrait dire, bah ouais, mais le problème c'est que si on laisse l'essence à ce prix-là, on va perdre de la croissance.
Bah oui. Alors juste pour un petit peu conclure, c'est le salon du livre là qui arrive. Est-ce que tu seras au salon du livre? Parce que le livre politique, en fait, c'est un livre politique quelque part. Tu parles de la politique, tu fais pas de politique. Tu parles de la politique.
Je parle de la politique, je parle des thrillers. Non, parce que je n'avais pas le temps d'être à la fois au salon du livre, à la fois dans la fin de publication du tome 2 et dans les étapes de production de la série. Voilà, mais je vais faire une tournée de dédicaces puisqu'on est en train de programmer ça. On a pas mal de demandes un peu partout en France.
Donc on va te retrouver
dans
l'Hexagone. Oui. Ça tombe bien, c'est les vacances là qui démarrent.
Oui.
Tu vas en profiter un petit peu?
Oui, je vais en profiter pour passer du temps avec mes enfants.
Ah, d'accord. Ils sont-ils lecteurs déjà? Ils ont l'âge
Non, il y en a une qui a 7 ans et demi qui lit et puis l'autre 3 ans et demi. Donc je vais pas leur laisser lire ça pour le moment. Même si je leur ai dédié.
Ah oui, oui, j'ai vu ça. En tous les cas, merci beaucoup, cher Florimond. Donc je rappelle ton livre Tempus Fugit.
Fugit.
Oh là là, voilà.
Du latin, Michel.
Naturam expellis forsat, amenus quere curet. Et voilà, et donc édition Héraclès. Donc si vous avez un intérêt pour ce bouquin, vous pouvez toujours joindre le standard de la radio. Et on vous dit donc à très très bientôt pour un prochain numéro du Florilège des Arts.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts, dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 17 avril 2026 de 10h à 11h, et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.